Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, ces regards qui changent sur la situation des réfugiés syriens. Le Premier ministre britannique propose pour la première fois d'en accueillir plusieurs milliers. En France, le sujet fait débat entre ceux qui ouvrent leurs portes et ceux qui les ferment. Nous entendrons les positions diamétralement opposées des maires de Strasbourg et de Troyes. L'après-dîner, Catherine, la lettre à Johnny, autant de sketchs savoureux de Sylvie Joly qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 80 ans. Des voleurs chevronnés qui dévalisaient les touristes du Louvre ou de Versailles, 40 à 60 000 euros de butin par mois. Ils comparaissent aujourd'hui devant la justice. Dans ce journal également du football, Portugal-France en match amical à 10 mois de l'euro, il va falloir s'y mettre. Et une expo à Perpignan, c'est Visa pour l'image, immersion aux sources de Charlie Hebdo chez les dingues d'Arakiri. La météo du week-end enfin, pas terrible demain, ce sera mieux dimanche. Prévision à la fin de ce journal. Bienvenue sur France Inter. Il y aura donc un avant et un après. Le petit Aylan a été enterré aujourd'hui avec son frère et sa mère à Kobané en Syrie, mais sa photo continue à faire bouger les lignes. La volte-face de David Cameron en est l'exemple le plus flagrant aujourd'hui. Bonsoir Franck Madvon.
Bonsoir Florence.
Vous êtes notre correspondant à Londres et Franck, le Premier ministre britannique a finalement décidé d'accueillir des milliers de réfugiés syriens supplémentaires alors qu'il n'en était pas question jusqu'à présent.
Oui, David Cameron a cédé à la pression. Hier, la photo d'Aylan a fait la une de toute la presse anglaise, y compris des journaux de droite qui ont demandé à Cameron de réagir, l'opposition travailliste et même des députés conservateurs ont aussi appelé le Premier ministre à faire des efforts. Il a donc pris la parole aujourd'hui à deux reprises lors d'une visite en Espagne et avant cela au Portugal.
Face à l'ampleur de cette crise, face à la souffrance des gens, j'annonce que nous ferons davantage en accueillant des milliers de réfugiés syriens supplémentaires. Nous poursuivrons notre démarche qui consiste à aller les chercher dans les camps de réfugiés. Ça offre une voie plus directe, plus sûre vers le Royaume-Uni pour éviter le risque d'un voyage hasardeux qui fait tant de morts.
Le Royaume-Uni va en fait étendre un mécanisme mis en place l'an dernier visant à accueillir les réfugiés les plus vulnérables. Seules 200 personnes en ont bénéficié. Des milliers d'autres vont donc les rejoindre. 4000 selon une source à l'ONU. 4000 qui s'ajoutent aux 5000 Syriens qui ont déjà obtenu l'asile ici depuis 2011. On reste très loin de l'Allemagne par exemple où on parle de dizaines voire de centaines de milliers de réfugiés syriens. Cameron estime que la meilleure réponse à la crise c'est l'aide aux pays d'émigration. Il a ainsi promis tout à l'heure 140 millions d'euros supplémentaires pour la crise humanitaire en Syrie.
Franck Madvon en direct de Londres. Alors voilà pour le cas britannique dont le ministre des Affaires étrangères comme tous ceux de l'Union européenne sont réunis à Luxembourg en ce moment même pour parler de la proposition franco-allemande d'hier. Mettre en place des quotas obligatoires de migrants dans chaque pays d'Europe. Il faudrait en répartir 200 000, dit aujourd'hui l'ONU. Proposition qui, on le sait, ne fait pas l'unanimité ni autour de la table ni même en France, on va l'entendre, en commençant par ceux qui veulent accueillir des réfugiés chez eux et qui appellent leurs concitoyens à les suivre, comme Roland Ris, le maire socialiste de Strasbourg.
Il faut qu'on soit conforme à notre tradition séculaire d'accueil de ces populations. Donc je me suis porté volontaire en quelque sorte et j'espère qu'il y aura des citoyens qui seront volontaires comme moi pour accueillir individuellement des réfugiés. Et puis les pouvoirs publics ont aussi un rôle à jouer là-dedans, évidemment. Je ne veux pas me défausser sur les citoyens, mais je veux que les citoyens puissent le faire. Et j'ai déjà des gens qui m'ont dit, mais nous on est prêts, on a un petit appartement disponible, une chambre disponible, etc. Donc je crois qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là.
Roland Ris, maire de Strasbourg avec Alexandre Tandin, à l'opposé de la ligne de François Baroin, le président de l'Association des maires de France, estime que le pays ne peut pas accueillir les Syriens dans de bonnes conditions. D'ailleurs, il ne faudra pas compter sur lui dans sa ville de Troyes, dans l'Aube.
Je ne le ferai pas à Troyes pour la simple et bonne raison, c'est que je suis en surcapacité justement à l'échelle régionale des centres d'accueil des demandeurs d'asile. Toutes les villes ne sont pas en situation d'accueillir le nombre très important de centaines de demandeurs d'asile qui vont arriver. En d'autres termes, on ne peut pas avoir des Calais partout en France.
Et la conférence des évêques de France appelle aujourd'hui tous les hommes de bonne volonté à soutenir les migrants. Des hommes, des femmes et des enfants qui traversent par milliers la Hongrie. Ils ne veulent pas rester dans le pays, qui ne veut pas non plus les accueillir, mais qui qui cherchent à les immatriculer. Eux n'aspirent qu'à une chose, c'est remonter vers l'Autriche et l'Allemagne sans passer par cet enregistrement à l'entrée de l'Europe. 300 d'entre eux se sont ainsi évadés aujourd'hui d'un camp de premier accueil du côté de la frontière serbe. 500 autres refusent de quitter le train qui devait les emmener vers l'Autriche, mais qui est bloqué par les autorités. Enfin, ils sont plus d'un millier à avoir quitté cet après-midi la principale gare de Budapest pour partir à pied vers la frontière autrichienne. L'état de crise a été proclamé. Le gouvernement populiste de Viktor Orban a renforcé en urgence sa législation, rendant notamment l'immigration illégale passible de 3 ans de prison. La République tchèque et la Slovaquie proposent ce soir d'ouvrir un couloir ferroviaire pour les Syriens entre la Hongrie et l'Allemagne. J'ajoute pour terminer que tous les reportages de nos envoyés spéciaux toute cette semaine sur cette route de l'exil sont disponibles sur franceinter.fr. France Inter qui vous propose un téléphone sonne spécial sur cette crise lundi entre 18h et 21h, Nicolas.
Oui, Florence, avec des intellectuels, des politiques, des associatifs, de très nombreux invités, mais surtout avec vous, amis auditeurs de France Inter, car cette réflexion sur les migrants, sur la crise des migrants et des réfugiés en Europe, il faut que nous l'ayons ensemble. Alors vos questions, vos témoignages, vos propositions, on les attend et on les espère très nombreux dans ce téléphone sonne spécial lundi prochain entre 18h et 21h. Il est pour l'instant 18h07.
Et ça ne va pas mieux chez Air France. Voilà. La direction envisage des départs contraints et une réduction de 10% de ses longs courriers en cas d'échec du plan de restructuration négocié en ce moment avec les syndicats. Le précédent plan qui s'était soldé par le départ de 7300 salariés avait été fait après plusieurs charrettes de départs volontaires. Il s'attaquait à des touristes souvent asiatiques au Louvre, à Versailles ou encore à la Tour Eiffel. Une bande de 12 personnes qui comparaissent aujourd'hui à Paris, des petites mains au chef. L'audience a été suivie par Sarah Guibaudot.
La plupart des prévenus roumains sont répartis de chaque côté de la salle dans 2 box pour 2 équipes de voleurs chevronnés. Certains sont bien connus de la police depuis plus de 10 ans, donc depuis leur adolescence. Chaque équipe est dirigée par une femme. À gauche, Mariana, cheveux bruns tirés dans un chignon sage. À droite, Sandra, jolie rousse, sexy. Avec l'argent gagné, elle s'offrait notamment des articles de luxe et des implants mammaires. Le dossier tient surtout sur ce que vous avez dit au téléphone prévenu. Vient le président. Au téléphone, Sandra se vante d'être la reine des voleuses et elle conseille son amie Mariana. Elle compare leurs gains, 40 voire 60 000 euros en moins d'un mois. Il faut dire que les équipes ne chôment pas. Chaque jour, déguisées en touristes ordinaires, appareils photo autour du cou, les voleurs partent à l'assaut du Louvre, du château de Versailles ou de la tour Eiffel. Un premier fait le guet, un deuxième cache le troisième, qui fait le sac d'un visiteur, étranger de préférence, ils ont plus d'argent liquide. L'argent retourne en partie en Roumanie pour financer des maisons ou des voitures, car derrière Mariana et Sandra, il y a des maris qui se tiennent au courant de tout ce qui se passe et qui encaissent les gains. Au Palais de Justice de Paris, Sarah Guibaudot, France Inter.
Une nouvelle candidate à la primaire Les Républicains en prélude à la prochaine présidentielle, c'est Nadine Morano qui vient rejoindre François Fillon, Alain Juppé et Xavier Bertrand déjà déclarés.
On passe, Florence, à la disparition d'une des pionnières de l'humour féminin.
Sylvie Joly, 80 ans, atteinte de la maladie de Parkinson. Elle était la digne héritière de Jacqueline Maillan, novatrice et fantasque. On n'oubliera pas ses sketchs, sa gouaille et son sens de la répartie. Féroce, Corinne Pellissier.
Comment tu dis ? Tati, oui c'est ça. Moi je ne m'habille plus que chez Tati. Je me suis dégoté un petit ensemble splendide, Courage sans la marque.
Grande adepte du politiquement incorrect, irrésistible en bourgeoise qui s'encanaille, Sylvie Joly était dotée d'une ironie qui a su inspirer par la suite toute une génération d'humoristes femmes. Florence Foresti, Muriel Robin ou encore Anne Romanoff qui lui rend hommage.
C'est vraiment une figure incontournable de l'humour féminin en France parce que c'est vraiment elle qui a été la pionnière de One Woman Show. Enfin, je pense que Sylvie Joly, moi, elle a été vraiment à l'origine de ma vocation parce que c'est vraiment... Il y avait un côté très mordant comme ça, très observateur sur les classes sociales, très ironique aussi, et tout ça, ça m'avait vraiment beaucoup plu, quoi.
Parmi ses personnages les plus connus, la productrice de télé hystérique, la stripteaseuse, la nominée aux Oscars et la fameuse Catherine.
Philippe et moi, on est un couple qui s'adore. Avec des gosses adorables, ça je suis bien obligé de le reconnaître. Détendu, intelligent, équilibré.
Nommée plusieurs fois au Molière et au César pour ses talents de comédienne et pour ses sketchs, Sylvie Joly avait aussi joué pour le théâtre et pour le cinéma, aux côtés de Bertrand Blier, Jean-Pierre Mocky ou Claude Lelouch.
Corinne Pellissier, un énième accès de colère de Gérard Depardieu contre la France. « Je crois que je vais tout vendre, je ne veux plus faire partie de ce pays », dit-il au supplément télé du Figaro. Depardieu qui affirme vivre en Italie et bientôt en Biélorussie chez les paysans parce que c'est beau et que le président Loukachenko est un homme sympa. On l'appelle le curé des Loubards, le père Guy Gilbert, indissociable de son blouson de cuir noir, donnera une messe avec le pape François vendredi prochain pour célébrer ses 80 ans et ses 50 ans de sacerdoce, passé à s'occuper des cabossés de la vie, comme il le dit lui-même. Du foot ce soir, c'est la rentrée des Bleus qui rencontrent le Portugal en match amical à Lisbonne, un test après 3 défaites au printemps dernier, et alors que l'Euro 2016 est dans la ligne de mire, Sébastien Hazard.
Mine de rien, il serait quand même temps de s'y mettre. À 10 mois de l'Euro, l'équipe de France ne dégage pas une impression de sérénité époustouflante et surtout, motivation plus faible ou pas des joueurs en raison des matchs amicaux, les Bleus ne semblent pas sur une pente ascendante. Il est grand temps de se reprendre. Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, en est bien conscient.
L'objectif, ce sera d'être prêt lors de l'Euro. Pas avant, pas après. Mais la notion de plaisir est importante et le plaisir, on le prend tous ensemble lorsqu'il y a la victoire. Ça crée également une certaine confiance, une certaine dynamique. C'est ce qu'on va rechercher en ce début de saison.
3 défaites lors des 4 derniers matchs, dont une pas très sérieuse contre l'Albanie mi-juin. Les Bleus se cherchent surtout une défense alors qu'ils ont encaissé 8 buts en 4 rencontres. C'est trop, évidemment, reprend le milieu de terrain international Blaise Matuidi.
Il va falloir rectifier le tir. Toute l'équipe doit avoir ça en tête. Je pense qu'on doit retrouver cette solidité. C'est la base. Après, on a la qualité, on l'a démontré. Et c'est pas parti du jour au lendemain. Donc, à nous de retrouver ça. Et c'est le bon test pour que ça soit le cas.
L'équipe de France a surtout besoin d'un résultat contre une nation majeure du football européen pour prouver qu'elle mérite bien mieux que la 24e place du classement FIFA, position qu'elle occupe actuellement. Lisbonne, Pierre Quintard, Sébastien Hazard, France Inter.
Et comme il n'y a pas que le foot dans la vie, passons à notre petite ordonnance culturelle du week-end. Cette semaine, on vous emmène à Perpignan, au festival de photojournalisme Visa pour l'image, où une exposition rend hommage au fondateur de Charlie Hebdo. L'équipe d'Arakiri, photographiée pendant des années par Arnaud Beaumont et Xavier Lambourg. Reportage Alexandra Akoun.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau.
Des clichés incroyables du professeur Choron debout sur la table de la rédaction, le poing levé, ou de Cabu, collier de barbe et cheveux longs imitant Charles Trenet. Arnaud Beaumont et Xavier Lambourg sont des gamins, 19 et 21 ans lorsqu'ils poussent la porte en 1974 d'Arakiri. Pour des débuts pas forcément évidents, Arnaud Beaumont.
Heureusement que ça a été très difficile parce que ça nous a permis d'être les seuls à être admis. Choron, il a commencé par nous dire « attention, pas de photos ». Et puis, ils ont vu qu'on n'était pas des photographes à la con qui viennent pour piquer quelque chose et se barrer et jamais pu revenir.
Ils y découvrent tout ce qu'ils aiment, la liberté, l'esprit anard, mais pas forcément potage, contrairement à ce que l'on pourrait croire, Xavier Lambourg.
Il y avait le travail avant. Et la fête, c'était quand enfin c'était terminé. Il n'y avait pas systématiquement des danses sur les tables, pas toutes les semaines, mais au moins tous les mois.
La fête, oui, mais le labeur surtout. Des esprits créatifs, fascinants à observer dans leur travail, comme le dessinateur Rezer, qu'Arnaud Beaumont adorait photographier.
C'est quelqu'un qui, quand il dessinait, c'était juste son visage qui se mettait à se déformer en fonction de la grimace qu'il allait exprimer, ou du dégoût, ou du désir. On entendait la plume gratter le papier. C'était très, très rapide.
Ils ressemblaient tous à leur dessin.
Perpignan, Alexandra Akoun, France Inter.
L'expérience est à retrouver dans un livre aux éditions de La Martinière. Ça s'appelle « Dans le ventre d'Arakiri », Nicolas.
Merci Florence Paracuelos. Prochain journal à 19h avec Sébastien Paour. Un jour dans le monde est à suivre après la météo du week-end d'Élodie Calac.
La météo avec Via Santé, la mutuelle qui accompagne la santé des entreprises et des particuliers. Via Santé Mutuelle, groupe AG2R, La Mondiale.
Le temps va s'améliorer pendant le week-end. Demain, ce sera souvent nuageux, surtout au nord de la Loire, avec un peu de grisaille le matin, quelques averses l'après-midi. Sur les Pyrénées, beaucoup de nuages, quelques averses aussi, tout comme sur les Alpes et le Massif central l'après-midi. En Méditerranée, le soleil s'imposera, le vent se renforcera jusqu'à 80 km à l'heure, parfois 100 du côté de la Corse. Il fera toujours frais, 16 à 22 degrés l'après-midi, 25 à 28 tout de même dans le sud-est. Dimanche, l'anticyclone reprendra de la vigueur, le soleil gagnera du terrain par l'ouest. Ça restera plus encombré de la frontière belge au nord-est avec quelques averses. Côté température, peu d'évolution, 17 à 22 degrés, un peu plus pour le sud-ouest, 21 à 24 degrés et 25 à 28 en Méditerranée.